Chers amis auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Salve Regine, votre émission hebdomadaire Peuple du Monde. Les beaux jours drainent les grandes fêtes liturgiques qui suivent la résurrection, après l'Ascension, 40 jours après Pâques, la Pentecôte. Commentant les lectures de la solennité de la Pentecôte, Benoît XVI nous redit, alors qu'il était pape, combien nous avons besoin du feu de l'Esprit-Saint qui est le signe de l'amour de Dieu. Au cours de la célébration solennelle de la Pentecôte, nous sommes invités à professer notre foi dans la présence et dans l'action de l'Esprit-Saint et à en invoquer l'effusion sur nous, sur l'Église et sur le monde entier. Faisons donc nôtre et avec une intensité particulière l'invocation de l'Église elle-même, « Veni Sancte Spiritus ». Une invocation si simple et immédiate, mais dans le même temps extraordinairement profonde, jaillit avant tout du cœur du Christ. En effet, l'Esprit est le don que Jésus a demandé et demande constamment au Père pour ses amis. Le premier et principal don qu'il nous a obtenu avec sa résurrection et son ascension au ciel. Le passage évangélique qui a pour cadre la dernière scène nous parle de cette prière du Christ. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. » Jean chapitre 14, versets 15 et 16. Ici nous est dévoilé le cœur en prière de Jésus, son cœur filial et fraternel. Cette prière atteint son sommet et son accomplissement sur la croix, où l'invocation du Christ ne fait qu'un avec le don total qu'il fait de lui-même et sa prière devient donc, pour ainsi dire, le sceau même de son don en plénitude par amour pour le Père et pour l'humanité. Invocation et don de l'Esprit-Saint se rencontrent, s'entremêlent, deviennent une unique réalité. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. En réalité, la prière de Jésus, celle de la dernière scène et celle sur la croix, est une prière qui demeure également au ciel où le Christ siège à la droite du Père. En effet, Jésus vit toujours son sacerdoce d'intercession en faveur du peuple de Dieu et de l'humanité et prie donc pour nous tous en demandant au Père le don de l'Esprit-Saint. Le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, versets 1 à 11, présente le nouveau cours de l'œuvre de Dieu commencée par la résurrection du Christ, une œuvre qui touche l'homme, l'histoire et l'univers. Du Fils de Dieu mort et ressuscité et retourné au Père souffle à présent sur l'humanité avec une énergie inédite, le souffle divin, l'Esprit-Saint. Et que produit cette nouvelle et puissante communication que Dieu fait de lui-même? Là où il existe des déchirements et des séparations, il crée l'unité et la compréhension. Un processus de réunification s'instaure entre les différentes composantes de la famille humaine, divisées et dispersées. Les personnes, souvent réduites à des individus en compétition ou en conflit entre eux, atteintes par l'Esprit du Christ, s'ouvrent à l'expérience de la communion au point de faire d'elle un nouvel organisme, un nouveau sujet, l'Église. Tel est l'effet de l'œuvre de Dieu, l'unité. C'est pourquoi l'unité est le signe de reconnaissance, la carte de visite, dirais-je, de l'Église au cours de son histoire universelle. Dès le début, depuis le jour de la Pentecôte, celle-ci parle toutes les langues. L'Église universelle précède les Églises particulières et ces dernières doivent toujours se conformer à elle selon un critère d'unité et d'universalité. L'Église ne demeure jamais prisonnière de frontières politiques, raciales et culturelles. Elle ne peut pas se confondre avec les États et pas plus avec les fédérations d'États, car son unité est d'un genre divers et aspire à traverser toutes les frontières humaines. De cela, chers frères, découle un critère pratique de discernement pour la vie chrétienne. Lorsqu'une personne ou une communauté se renferme sur sa propre façon de penser et d'agir, c'est le signe qu'elle s'est éloignée de l'Esprit Saint. Le chemin des chrétiens et des églises particulières doit toujours se confronter avec celui de l'Église, une et catholique, et s'harmoniser avec lui. Cela ne signifie pas que l'unité créée par l'Esprit Saint est une sorte d'égalitarisme. Au contraire, cela est plutôt le modèle de Babel, c'est-à-dire l'imposition d'une culture de l'unité que nous pourrions qualifier de technique. En effet, la Bible nous dit qu'à Babel, tous ne parlaient qu'une seule langue. Lors de la Pentecôte, en revanche, les apôtres parlent des langues diverses, de façon à ce que chacun comprenne le message dans son propre idiome. L'unité de l'esprit se manifeste dans la pluralité de la compréhension. L'Église est de par sa nature une et multiplie, destinée à vivre auprès de toutes les nations et de tous les peuples et dans les contextes sociaux les plus divers. Elle répond à sa vocation d'être signe et instrument d'unité de tout le genre humain, uniquement si elle maintient son autonomie à l'égard de tout État ou de toute culture particulière. L'Église doit être toujours et en tout lieu véritablement catholique et universelle, la maison de tous dans laquelle chacun peut se retrouver. Le récit des Actes des apôtres nous offre aussi un autre point de départ très concret. L'universalité de l'Église est exprimée par l'énumération des peuples selon l'antique tradition. Parthes, Mèdes et Élamites, etc. On peut observer que saint Luc va au-delà du nombre 12 qui exprime déjà et toujours une universalité. Il regarde au-delà des horizons de l'Asie et de l'Afrique nord-occidentale et ajoute 3 autres éléments, les Romains, c'est-à-dire le monde occidental, les Juifs et les prosélytes, comprenant de manière nouvelle l'unité entre Israël et le monde, et enfin Crétois et Arabes, qui représentent l'Occident et l'Orient, les îles et la terre ferme. Cette ouverture des horizons confirme ultérieurement la nouveauté du Christ dans la dimension de l'espace humain, de l'histoire des peuples. L'Esprit Saint implique les hommes et les peuples et à travers eux, il dépasse les murs et les barrières. À la Pentecôte, l'Esprit Saint se manifeste comme un feu. Sa flamme est descendue sur les disciples réunis et elle s'est allumée en eux et leur a donné la nouvelle ardeur de Dieu. Ainsi se réalise ce qu'avait prédit le Seigneur Jésus. « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé. » Luc chapitre 12 verset 49. Les apôtres avec les fidèles des diverses communautés ont apporté cette flamme divine jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont ouvert ainsi une route pour l'humanité, une route lumineuse, et ils ont collaboré avec Dieu qui, par son feu, veut renouveler la face de la terre. Combien ce feu est différent des guerres et des bombes? Combien est différent l'incendie du Christ propagé par l'Église par rapport à ceux allumés par les dictateurs de toute époque jusqu'au siècle dernier, qui laissent derrière eux une terre brûlée. Le feu de Dieu, le feu de l'Esprit Saint, est celui du buisson qui est embrasé mais ne se consume pas. C'est une flamme qui brûle mais ne détruit pas, qui au contraire, en s'embrasant, fait apparaître la meilleure part de l'homme et la plus vraie, et qui, comme dans une fusion, fait apparaître sa forme intérieure, sa vocation à la vérité et à l'amour. Un père de l'Église, Origène, dans l'une de ses homélies sur Jérémie, rapporte une parole attribuée à Jésus qui n'est pas contenue dans les Saintes Écritures, mais est peut-être authentique, et dit ceci « Qui est à mes côtés est aux côtés du feu ». Dans le Christ, en effet, habite la plénitude du Dieu qui dans la Bible est comparé au feu. Nous avons observé il y a peu que la flamme de l'Esprit-Saint embrase mais ne brûle pas. Et celle-ci opère toutefois une transformation, et pour cela, elle doit consumer quelque chose dans l'homme, les résidus qui le corrompent et l'entravent dans ses relations avec Dieu et avec son prochain. Mais cet effet du feu divin nous effraie. Nous avons peur de nous y brûler. Nous préférerions demeurer comme nous sommes. Cela dépend du fait que très souvent notre vie est organisée dans une logique de l'avoir, de la possession et non du don de soi. Beaucoup croient en Dieu et admirent la figure de Jésus-Christ, mais quand il leur est demandé de perdre quelque chose d'eux-mêmes, alors ils font un pas en arrière. Ils ont peur des exigences de la foi. Il y a la crainte de devoir renoncer à quelque chose de beau auquel nous sommes attachés. La crainte que suivre le Christ nous prive de la liberté de certaines expériences, d'une part de nous-mêmes. D'un côté, nous voulons être avec Jésus, le suivre de près, et de l'autre, nous avons peur des conséquences que cela entraîne. Chers frères et sœurs, nous avons toujours besoin de nous entendre dire par le Seigneur Jésus ce qu'il répétait souvent à ses amis, « N'ayez pas peur ». Comme Simon-Pierre et les autres, nous devons laisser sa présence et sa grâce transformer notre cœur, toujours sujet aux faiblesses humaines. Nous devons savoir reconnaître que perdre quelque chose, et même soi-même pour le vrai Dieu, le Dieu de l'amour et de la vie, c'est en réalité gagner, se retrouver plus pleinement. Qui s'en remet à Jésus a fait l'expérience déjà dans cette vie-là de la paix et de la joie du cœur que le monde ne peut pas donner et ne peut pas non plus ôter une fois que Dieu nous les a offertes. Il vaut donc la peine de se laisser toucher par le feu de l'Esprit-Saint. La douleur qu'il nous procure est nécessaire à notre transformation. C'est la réalité de la croix. Ce n'est pas pour rien que dans le langage de Jésus, le feu est surtout une représentation du mystère de la croix, sans lequel le christianisme n'existe pas. C'est pourquoi, éclairés et réconfortés par ces paroles de vie, nous élevons notre invocation « Viens, Esprit Saint, allume en nous le feu de ton amour ». Nous savons que c'est une prière audacieuse par laquelle nous demandons à être touchés par la flamme de Dieu. Mais nous savons surtout que cette flamme, et elle est seule, a le pouvoir de nous sauver. Nous ne voulons pas, pour défendre notre vie, perdre la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Nous avons besoin du feu de l'Esprit-Saint parce que seul l'amour rachète. Le père Pierre d'Écouvemont nous parle de la vie de l'esprit et des sept dons du Saint-Esprit. L'existence des sept dons du Saint-Esprit n'est pas un dogme, mais à partir d'un verset biblique, les théologiens du Moyen-Âge ont repéré les sept façons dont l'Esprit-Saint intervenait dans notre vie. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Pourquoi ne pas les répartir par paires et sur les sept branches d'un chandelier, étant bien entendu qu'on déposera sur la branche centrale, la plus importante, celle qu'on allume en dernier, le don de sagesse, celui qui favorise l'essor de la vie contemplative. Il nous semble en effet qu'en classant les six premiers, donc don par pair, on comprend mieux leur complémentarité. Et les deux premiers nous incitent à bien nous situer devant Dieu avec respect et confiance tout à la fois. Les deux suivants nous permettent de nous ajuster à sa volonté en la découvrant et en l'accomplissant. Deux autres dons favorisent en nous une connaissance profonde de Dieu à partir soit de ses œuvres créées, soit de ses paroles révélées. Le don de sagesse, enfin, nous aide à le goûter, lui-même dans le fond de notre cœur, et d'anticiper ainsi sur terre quelque chose de la joie du ciel. La crainte filiale, que nous appellerions aussi sens de Dieu, nous donne une connaissance aiguë de notre condition de créature et de créature pécheresse. Elle nous fait expérimenter la béatitude des pauvres en esprit. Elle nous met à notre juste place devant Dieu en nous donnant une connaissance claire de la distance qui existera toujours entre le Créateur et sa création. Elle nous fait nous écrier « Dieu seul est saint ». Elle dépose dans notre cœur une humilité à laquelle nous serions incapables d'accéder par la seule considération de la brièveté ou de la médiocrité de notre vie. Enfin, elle nous donne le désir d'éviter le péché afin de ne pas offenser l'infinie tendresse de Dieu pour nous. La piété filiale nous donne confiance d'enfant envers notre Père des cieux. Elle est le complément nécessaire de la crainte puisque nous devons avancer vers Dieu avec deux béquilles, la béquille de l'humilité et la béquille de la confiance, comme disait joliment François de Sales. Mieux encore, la brebis qui a expérimenté sa fragilité foncière de créature est toute heureuse d'avancer, juchée sur les épaules de son pasteur. Là, ses peurs se dissipent. Le don de conseil nous apporte le discernement spirituel. Il nous donne de voir ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Il nous dispose également à voir clair pour accompagner nos frères et nos sœurs dans leur recherche de Dieu. Encore, devons-nous avoir le courage de réaliser ce qu'il nous fait découvrir. Le don de force nous communique l'énergie même de Dieu dans le combat spirituel que nous avons à mener pour accomplir sa volonté. C'est lui qui donne aux martyrs de supporter avec héroïsme les tortures auxquelles ils sont soumis. Le don de science nous permet de voir Dieu à travers l'œuvre dans le monde, à la fois dans la nature et dans les événements de l'histoire. C'est ainsi que François d'Assise se sentait profondément frère du soleil et des étoiles, du vent et de l'eau. C'est aussi sous l'influence de ce don que nous apercevons la providence de Dieu à l'œuvre dans le monde, à l'œuvre dans nos vies. Le don d'intelligence nous aide à mieux comprendre les mystères de Dieu. C'est le don qui prépare chaque chrétien à devenir un authentique théologien lorsqu'il applique longuement son cœur à lire les pages de la Bible comme autant de messages d'amour de son Dieu. L'Esprit le conduit alors vers la vérité tout entière. Dieu désire en effet que nous découvrions son amour à travers le grand livre de la nature et de l'histoire, mais aussi et surtout à travers les livres de la Bible. La sagesse, c'est le don par lequel l'Esprit nous fait goûter la saveur de Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Psaume 34. Il arrive en effet que Dieu me fasse goûter tout au fond du cœur la joie d'être envahi par l'Esprit. À d'autres moments, je sens plutôt mon être bondir de joie pour le Seigneur, devenir sous le souffle de l'Esprit louange de gloire. Il y a en moi comme une source jaillissante, celle que Jésus avait promis de donner à la Samaritaine. Et cette eau vive est comme un torrent qui m'emporte vers le Père. C'est sous la motion de l'Esprit qu'il m'arrive de dire avec joie « Abba, Papa ». Chers amis auditeurs, merci d'être restés en notre compagnie. À très bientôt et bonne fête de la Pentecôte.